La chronique du design.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chronique du design. Chaque semaine, je vous parle d'objets du quotidien qu'on ne remarque même plus et dont on ne connaît pas l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'objet multifonctionnel par excellence. Son design est reconnaissable entre tous, un manche rouge, une petite croix blanche entourée d'un bouclier, une lame et toutes sortes d'outils pliables. Normalement, vous l'avez, c'est le couteau suisse. L'innovation, ça n'est pas la lame pliable, parce que figurez-vous qu'il en existe déjà à l'âge de fer. Ce qui est nouveau, ce sont les autres outils, en plus de la lame, qui sont eux aussi pliables dans un seul et même objet. L'histoire commence dans les années 1880, quand l'armée suisse rencontre un problème. Les soldats ont besoin d'avoir toujours sur eux un tournevis pour assembler leurs fusils d'ordonnance. Mais ils l'oublient, et en plus c'est quand même pas très pratique. Donc, l'armée commande un objet compact avec un tournevis, mais aussi d'autres outils utiles au quotidien. En 1891, le tout premier couteau de poche est livré sous le nom de modèle 1890. La poignée est en bois de chêne noirci, il comporte une lame, un ouvre-boîte, un tournevis plat et un poinçon. Logiquement, le gouvernement veut faire fabriquer ses couteaux en Suisse. Mais à ce moment-là, aucune société suisse n'a la capacité de production nécessaire. Les 15 000 premiers couteaux sont donc fabriqués en Allemagne, à Solingen, par le coutelier Wester & Co. C'est quand même un comble que les premiers couteaux suisses n'aient pas été fabriqués en Suisse. Heureusement, pour remédier à ça, il y a un Suisse qui prend les choses en main, Karl Elsener. Dès 1884, alors que la Suisse est en plein essor industriel, il crée sa propre fabrique de couteaux et d'instruments chirurgicaux à Ibach, dans le canton de Schwyz, avec l'aide de sa mère Victoria. Mais c'est en 1891, quand il forme l'association des maîtres couteliers suisses, qu'il peut enfin répondre à une grosse commande et que le gouvernement lui confie la production du modèle 1890. Pendant 3 ans, il met au point ce couteau pour en faire un objet avec le plus d'usage possible, dans un format le plus réduit possible. Il allège et rajoute d'autres accessoires sur l'autre côté du manche, une lame et un tire-bouchon qui, comme par hasard, est fabriqué en France. Il met au point un mécanisme innovant qui permet de maintenir tous les accessoires par un seul ressort. Il finit par protéger son invention par un brevet en 1897 sous le nom de Schweizer Offiziers- und Sportmesser, ce qui veut dire couteau d'officier et de sport suisse. Au fil des années, le couteau de l'armée est perfectionné. En tout, il y a 5 modèles dont le numéro correspond à l'année, donc 1890, 1908, 1951, 1961, sauf un, qui s'appelle le modèle 08. On ne sait pas trop pourquoi. Je vous passe les détails, mais les évolutions concernent surtout les matériaux, la forme et les normes d'estampillage. En fait, le design du couteau suisse qu'on connaît aujourd'hui prend vraiment forme à partir de 1909. Cette année-là, la mère de Karl Elsener meurt. Pour lui rendre hommage, il appelle l'entreprise Victoria. C'est aussi à ce moment-là qu'il dépose l'emblème de la croix et du bouclier et qu'il décline le couteau dans une version civile entièrement rouge en... Alors, le nom est un peu difficile à prononcer, en acétobutyrate de cellulose. Plus tard, en 1921, les lames sont faites en acier inoxydable et la marque est renommée Victorinox. Vous l'aurez compris, le fameux couteau suisse rouge n'est pas celui de l'armée, mais c'est un modèle destiné au grand public qui est vendu sur le marché civil. Il devient populaire dans le monde entier après la Seconde Guerre mondiale parce que les soldats américains l'achètent comme souvenir. Alors oui, c'est pas la même chose qu'une carte postale ou un magnet, mais c'est un gadget complètement nouveau qui fascine tout le monde. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commence à l'appeler couteau suisse, parce que Schweizer Offiziers- und Sportmesser, c'est quand même un peu long et compliqué à prononcer. Donc les Américains le renomment Swiss Army Knife. Après ça, Victorinox n'a pas arrêté d'ajouter des nouvelles fonctions. Bien sûr, les plus connus sont la pince à épiler, le cure-dent, la lime à ongles et les ciseaux. Mais il y a d'autres choses plus technologiques comme l'altimètre, la montre, la lampe de poche, la clé USB ou même le pointeur laser. Et forcément, il y a eu des échecs, par exemple la règle qui était trop petite donc illisible, le peigne pas très hygiénique à côté des couverts et des ustensiles un peu trop spécialisés comme la fourchette à oignons et olives et l'épluche légumes. Bon, bien sûr, tout ça, c'est pour innover, mais c'est aussi une question juridique. En fait, les brevets déposés ne sont valables que pendant 20 ans. Donc, en rajoutant des nouveaux éléments, le brevet du couteau est rallongé à chaque fois de 20 ans. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de Victorinox, mais il faut savoir que juste après Karl Elsener, d'autres fabricants ont aussi produit des couteaux suisses. Mais à partir de 1961, Victorinox et une autre entreprise suisse, Wenger, ont officiellement le monopole du couteau suisse. Puis, en 2001, il y a un événement qui va mettre en péril les deux entreprises. Après les attentats du 11 septembre, il est interdit d'avoir un couteau dans l'avion. J'aurais jamais imaginé ça, mais dites-vous que les ventes du couteau suisse ont baissé de quasiment 40%. C'est Wenger qui en a le plus souffert et en 2005, Victorinox décide de racheter l'entreprise pour éviter qu'elle soit rachetée par des investisseurs étrangers. Mais Wenger continue d'être une marque à part entière jusqu'en 2014, puis se reconvertit dans la bagagerie et l'horlogerie, logique pour la Suisse. En 2007, c'est quand même Wenger qui fait entrer le couteau suisse au Guinness des records avec un modèle qui réunit tous les outils disponibles. Il pèse plus d'un kilo avec 87 outils et 141 fonctions et coûte presque 1000 euros. Parmi les outils, on trouve un coupe-cigare, une jauge pour mesurer l'usure des pneus, une loupe, une boussole, plus de 10 lames, pareil pour les tournevis, et même des outils de jardinage. En tout cas, aujourd'hui, Victorinox est le seul producteur de couteaux suisses. L'entreprise est restée familiale et l'une des deux usines est toujours à Ibar. La ville n'est pas très grande et presque 10% des habitants sont employés par Victorinox. C'est pas mal. À côté des couteaux civils, l'entreprise est toujours chargée de fournir l'armée en couteaux militaires. Bien sûr, ils sont très différents. La lame est plus longue et dentelée. Elle s'ouvre d'une main et se bloque automatiquement. Le manche est antidérapant et de couleur kaki. Et on retrouve l'ouvre-boîte, le tournevis, une petite lame auquel s'est ajoutée une scie. Ce couteau est obligatoire dans l'armée suisse, mais aussi dans l'armée allemande, néerlandaise et malaisienne. Le couteau suisse fait aussi partie du kit de survie des astronautes de la NASA depuis 1992. On l'a bien compris, le couteau suisse, dans toutes ses versions, est utilisé par tous. Il s'est fait une place dans le quotidien du monde entier. Son nom est même passé dans le langage courant pour qualifier quelque chose de multifonctionnel. Mais plus qu'un objet pratique, il est désormais considéré comme une œuvre d'art par le MoMA à New York, le Musée de Design de Londres et la Neue Sammlung de Munich. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris des choses sur ce couteau mythique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du design.